Vous écoutez
RMC.
Esteban Ocon a vécu un véritable calvaire il y a deux semaines pour le premier Grand Prix de la saison de Formule 1 à Bahreïn. Trois pénalités durant la course et un abandon à 16 tours de l'arrivée. Pendant ce temps-là, son coéquipier chez Alpine, Pierre Gasly, parti dernier, a réussi à terminer dans les points 9e. Cette saison, on le sait, va sentir la poudre chez Alpine pour savoir si un des deux Français réussira à devenir le pilote numéro 1. C'est dans ce contexte que le patron d'Alpine, Laurent Rossi, a lâché une phrase étonnante dans un épisode du podcast de Formule 1. Intitulé, attention mon anglais, Beyond the Grid.
Interrogé the Grid, oh my god, the Grid.
The grid.
Beyond the Grid.
Ok, pardonnez-moi.
La piste, the Grid.
The Grid, la piste. Piste, grid, évidemment c'est un verbe irrégulier. Interrogé sur le contrat long terme offert à Ocon, le boss de l'écurie française a dit ceci, c'est la punchline DGG, rapportée par notre copine Siri.
RMC, la punchline GG.
Presque chaque année, on lui disait, ça y est, c'est fini. C'est la fin de la route avec nous, et tu devras trouver un autre baquet pour l'année prochaine. Nous avons décidé de miser sur lui pour 3 ans et de lui permettre de rouler, et à l'époque, pour être honnête, personne n'était d'accord avec nous. Soyons clairs, c'était le meilleur pilote possible. Et j'ai toujours dit qu'Esteban était au moins un très bon deuxième pilote.
Voilà pour cette phrase qui, évidemment, est sujet à interprétation. D'ailleurs, dans un second temps, je vous donnerai sa justification. Est-ce tout simplement une erreur de com ? Oui ou non ? Stephen Brun ?
Oui.
David Douillet ?
Oui.
Marion Bartoli ?
Oui, mais j'ai des nuances.
Ok. Simon Dutin ?
Oui.
Stephen Brun, pourquoi oui ?
En fait, on connaît tous le contexte déjà, les antécédents Ocon-Gasly, les centaines de questions sur l'éventuelle hiérarchie chez Alpine, et Laurent Rossi, dans ce contexte-là, il n'a pas le droit à l'erreur sur les mots qu'il utilise, parce que ça a trop de résonance aujourd'hui. Et la preuve, il a le droit à un débat, notre ami Lolo, dans les grandes gueules du sport. Et cette phrase, elle aurait pu passer inaperçue si tout s'était bien passé pour Ocon en ouverture de la saison à Bahreïn. Mais Ocon, il est passé au travers complet, 3 pénalités abandon, et sur les 3 pénalités, il a quelques responsabilités en tant que pilote. Et cette phrase-là, elle met déjà une énorme pression sur Esteban Ocon. Parce que ce qui s'est passé à Bahreïn, ça veut dire qu'Ocon, il est déjà derrière Gasly. Il n'a pas fait les points. Gasly est rentré dans les points. Alors que Gasly découvre Alpine. Et que Ocon, on avait toujours tous dit, on va attendre 4-5 Grands Prix avant qu'une hiérarchie se dégage entre Gasly et Ocon. Là, la hiérarchie, elle est presque déjà établie. Si Ocon ne fait pas quelque chose à Jeddah...
Ah, il a déjà la pression là pour le Grand Prix de demain.
Lui, il a la pression et Alpine, ils ont une pression hors norme. Laurent Rossi, lui qui se disait... Moi, je vais être quatrième au classement des constructeurs et se rapprocher de la troisième place. Sauf que il a vu Alonso, Stroll et Aston Martin pointer le bout du nez. Donc là, chez Alpine, je peux te dire qu'il y a les jambes qui tremblent. C'est-à-dire, oulala, déjà, on a un mec qui abandonne, un autre qui est 20e sur la grille, mais qui fait une belle remontée. On a Aston Martin qui est là, qui était inattendu. Ils ont une pression hors norme. Et Ocon, je ne sais pas comment il a vécu cette phrase-là. Après, la justification de Rossi, tu peux me la répéter 10 fois, je l'ai lu 8 fois, j'ai toujours pas compris ce qu'il voulait dire.
Donc, okay. Tu le lances maintenant. Alors je vais vous faire l'explication et puis après évidemment je passe dans les rangs, les copains, vous allez pouvoir vous exprimer. Attention, c'est parti, on a prévu une petite musique pour comprendre la justification de Laurent Rossi. Tout le monde interprète cette phrase de manière différente. Mais quand je dis cela, c'est comme s'il n'y a pas de numéro 1 ou de numéro 2 chez Ferrari. Pourtant, je suis presque sûr que beaucoup de gens pensent qu'il y a un numéro 1 et un numéro 2. Il n'y a pas de numéro 1 et de numéro 2 chez Mercedes. Et c'est difficile de discerner qui occupe actuellement ce statut là-bas. Je pense qu'Esteban sera l'un de ces deux pilotes, quel que soit celui que vous affrontez dans ces deux équipes. C'est ce que je voulais dire avec cette phrase.
Oui, non, il a rien dit en fait.
Merci. Il aurait mieux fait de nous chanter Papa Noël.
C'est vrai. Là, on se serait dit... David Douillet a compris. Alors.
Ah, mais moi je trouve que c'est très clair. Pour être aussi empêtré, il s'est emmêlé les pinceaux, il s'est crocheté tout seul, il est tombé à terre. C'est parce qu'il voulait simplement dire qu'il n'y a pas de statut aujourd'hui chez Alpine. Voilà, il y a rien. Voilà, il a essayé de commenter effectivement ce que t'as expliqué tout à l'heure, Stephen, un début de saison catastrophique pour Ocon avec ses pénalités. Mais il a deux pilotes qui sont bons, et aujourd'hui, il n'y en a pas un, à ses yeux, qui prend le pas sur l'autre. Et vous verrez que dans les Grands Prix qui vont arriver, il y aura, je pense, une très très belle histoire à raconter, et je pense qu'on aura de nombreux débats encore à venir sur Alpine, dans les grandes gueules, c'est certain.
Ok, Marion Bartoli, il y avait des nuances pour toi.
Non, il y a des nuances, parce qu'effectivement, quand tu vas jusqu'au bout de son podcast, jusqu'au bout de ce qu'il explique, il dit que finalement, il a donné un contrat 3 ans à Esteban pour justement qu'il arrête d'être sous pression chaque année, en lui disant que ça allait être la fin, qu'il avait pu avoir de baquet, que donc il pilotait d'une manière beaucoup trop agressive, en prenant beaucoup trop de risques pour essayer de démontrer qu'il pouvait être extrêmement rapide et gagner des courses, donc il avait sa chance. Il a pris l'exemple de Valtteri Bottas, qui était un petit peu dans le même cas avec ses contrats d'1 an à répétition chez Mercedes. Et il finit en disant, pour moi, s'il veut montrer qu'il a les qualités pour faire de lui un jour un champion du monde, il faut effectivement lui donner le temps de rester 3 ans chez nous pour qu'il arrive à tirer la performance maximum de la voiture, mais aussi de l'usine, des 1200 personnes qui travaillent derrière, et que c'est pas uniquement de savoir qui va faire le tour le plus rapide. Donc d'un certain côté, lui donne du crédit en lui octroyant du temps et en lui faisant signer un contrat de 3 ans, et de l'autre, effectivement, il a cette phrase extrêmement maladroite, et son explication l'est encore plus. Donc j'ai du mal à discerner en fait ce qu'il pense vraiment. Ce qui est certain en revanche, c'est qu'Esteban Ocon, et là je suis parfaitement d'accord avec Stephen, sur le premier Grand Prix, il n'a pas été à la hauteur, il le sait. En plus, toutes ces pénalités à répétition le mettent vraiment dans de grandes difficultés par rapport à Pierre Gasly. Donc là, il a un statut à nouveau à prouver. Mais d'un autre côté, il a son contrat de 3 ans qui le rassure un peu. Donc je sais pas si Laurent Rossi commence à s'en mordre les doigts en disant, oh là là, je lui ai donné un contrat de 3 ans, finalement il va s'asseoir dessus et puis il va nous faire des performances pas à la hauteur de ce qu'on espérait, et puis on va se retrouver qu'avec un seul pilote. D'où ces déclarations un petit peu maladroites pour le piquer à l'ego et au vif et le faire réagir. Je sais pas ce qui se passe vraiment en interne, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'ils ont pas beaucoup de sérénité.
Ouais, alors je te voyais réagir, Simon Dutin, quand Stephen a dit qu'il a déjà la pression sur ce deuxième Grand Prix Esteban Ocon. Mais vas-y, tu peux y aller.
Je trouve que ce serait un peu cher de mettre la pression comme ça après effectivement une seule course. Toutes les équipes, je crois, sont en train de chercher leur marque et effectivement de chercher leur place sur cette grille. Je pense qu'il faut surtout pas non plus considérer que Laurent Rossi, bien que ce soit un nouveau venu en F1, bon, on sort de nulle part. Ça fait 20 piges qu'il bosse chez Renault quand même.
Il a beaucoup de métiers et il est souvent très cash.
Il a une formation d'ingénieur. Peut-être qu'il lui manque effectivement ce côté manager de haute compétition, effectivement. Avec les fauves que sont les pilotes, il faut rappeler qu'effectivement, si tu compares avec un sport collectif, en F1, les titulaires, il n'y en a que 2 par équipe, effectivement. Stephen l'a rappelé, le choix des mots est fondamental, parce qu'il y a un effet de loupe, on scrute effectivement toutes les déclarations. Quand tu emploies l'adjectif deuxième dans une phrase que tu es patron d'écurie, c'est pas possible, effectivement. Après, les sensibilités des pilotes sont un petit peu différentes. Moi, ce que je crois comprendre et percevoir, et c'est à ce titre que c'est peut-être un petit peu dangereux, c'est que, en tout cas, dans les interviews, dans la façon de s'exprimer, je trouve qu'Esteban Ocon est un peu plus expressif que son concurrent d'Alpine, parle un petit peu plus souvent de ses propres qualités, en gros affiche une confiance en lui qu'on voit pas toujours chez Pierre Gasly. À ce titre-là, peut-être qu'il serait vexé, mais bon, les exemples sont tellement nombreux, j'ai l'impression qu'on est un peu en train de revenir de ce modèle pilote numéro 1 et numéro 2, t'es déjà bien content d'être ici, tu la fermes et t'aides ton leader. J'ai l'impression qu'on équilibre un petit peu plus les pairs dans les écuries, et effectivement, une petite explication, les gars, ça se règle sur la piste. Ça t'a fait marrer, on équilibre les pairs, c'est ça?
Ça m'a fait vraiment rire, mais surtout, c'est surtout la séquence qui arrive dans quelques instants qui va me faire rire, parce que évidemment vous n'avez rien compris à cette justification de Laurent Rossi. En plus, on avait mis une musique qui pouvait prêter évidemment à ne rien comprendre, donc je vous propose de refaire cette justification avec cette fois-ci la musique de Tino Rossi pour comprendre Laurent Rossi. On tente, on essaye.
C'est horrible.
Tout le monde interprète cette phrase de différentes manières, mais quand je dis cela, c'est comme s'il n'y a pas de numéro 1 et de numéro 2 chez Ferrari. Pourtant, je suis presque sûr que beaucoup de gens pensent qu'il y a un numéro 2. Il n'y a pas de numéro 1 et de numéro 2 chez Mercedes. Et c'est difficile de discerner qui occupe actuellement ce statut là-bas. Je pense qu'Esteban serait l'un de ces deux pilotes, quel que soit celui que vous affrontez dans ces deux équipes. C'est ce que je voulais dire avec cette phrase. C'est vrai qu'on dirait du Édouard Baird, non?
Vous êtes vraiment des enfants.
J'ai tout compris.
Là, on a compris.
Bah, bien sûr.
On a toujours pas compris.
De bons et de mauvais pilotes.
Il n'y a pas de bons et de mauvais pilotes.
Non, parce que le premier pilote, il avance vite. Oui. Mais c'est un bon pilote.
Est-ce qu'on pourrait la refaire sur un tour en piste de Valentino Rossi?
Alors, on va le faire avant la fin de cette émission pour voir si ça marche mieux, évidemment. Parfait, merci beaucoup les copains.
C'est comme il n'y a pas de bons et de mauvais chasseurs, c'est ça?
Exactement, sauf que le mauvais pilote, il fonce, mais c'est un mauvais pilote. Voilà.